Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Grâce Hamzati.
Tracasserie policière sur les routes de Kinshasa. Les taximen moto observent une grève ce lundi dans la capitale afin d'interpeller les autorités sur cette situation. Des précisions à l'ouverture de ce journal. Journée porte ouverte ce lundi au palais de justice de Bunia-Nitouri. Objectif, comprendre le fonctionnement des juridictions civiles et militaires dans le cadre du projet d'appui à la réforme de la justice, nous dira tout à l'heure Martial Kizabiamungu. L'invité de ce journal est le rédacteur en chef de la Fondation Hirondelle. Christian Mulumba Kalumba nous parle de la formation des journalistes et acteurs de la société civile sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine organisés par sa structure à Bunia. À toutes et à tous, bonjour. Une grève des taximens moto communément appelée Wewa est observée ce lundi sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ces motocyclistes déplorent les multiples tracasseries policières dont ils sont victimes sur les artères de la capitale. Ils disent également être les cibles des militaires des FARDC ainsi que des agents de transport. Ce reportage est signé Sarah Soumbela mais rendu par Blaise Shindani Kambala.
C'est aux environs de 8 heures locales dans la commune de Ngaliema que cette grève a commencé. Des grévistes empêchent la circulation d'autres motos à coups de fouet et débarquent des passagers à bord, obligeant ainsi les conducteurs à respecter leur mouvement. Certains parmi eux agressent les clients qui refusent de descendre de la moto. Présenté comme injustifié, le contrôle routier à répétition et les taxes illégales imposées sont dénoncés comme explique l'un d'eux.
Il y a des bureaux B, les agents en tenue civile, les agents des transports, les policiers et les FRDC se sont encore ajoutés. C'est pourquoi nous sommes déterminés. Aujourd'hui, il faut que les autorités du pays puissent nous entendre.
Selon le président de motards trouvés sur place à Pompage, les taximen moto ont décidé par eux-mêmes de faire cette grève sans l'accord des syndicats. Mais ils sont dans leurs droits car ce qu'ils vivent de la part des agents de l'ordre est inhumain. Jean-Paul Bongamba dit Lumumba.
L'État est capable de résoudre tout ce qui se passe actuellement dans notre secteur des taxis moto, précisément dans la ville promesse de Kinshasa. Parce que le motard est là, lorsqu'il sort de sa maison, il est au courant que lorsque je sors là, tout ce que je vais recevoir aujourd'hui, l'une des parties ira aussi dans la police, même s'il n'a pas commis l'effraction.
Des policiers trouvés sur place à Pompage n'ont pas voulu s'exprimer sur cette grève, car affirmant ne pas être au courant de la raison de ces désordres.
Merci à vous, Blaise Shindani Kambala. Même situation dans la province du Maniema, où une journée sans taxi-moto est observée ce lundi dans la ville de Kindu. Les motocyclistes contestent le paiement des 1500 francs congolais par jour comme taxe conventionnelle pour la réhabilitation des routes. Le matin, aucun taxi-moto n'était en circulation. Les conducteurs des motos s'est regroupés à certains carrefours pour empêcher ceux qui voulaient travailler. Cette situation a mis à mal les élèves, les étudiants et même les fonctionnaires qui se servent des taxis-motos pour se mouvoir. Ils réclament que ces montants soient revus à la baisse. Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, les inspecteurs et agents de l'inspection principale provinciale de l'éducation Tchopo 1 ont déclenché à partir de ce lundi un mouvement de grève et ce, jusqu'à nouvel avis. Ils s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de discrimination liée à l'octroi de la prime pour fonction spéciale aux seuls inspecteurs et agents d'appoint des IPP de Kinshasa et du Congo central. Un extrait de leur déclaration lu par leur porte-parole a été choisi par Jacques Mukonkole.
Nous, inspecteurs et agents administratifs d'appoint de l'inspection principale provinciale Tchopo 1, avons constaté ce qui suit. La mauvaise volonté manifeste du gouvernement de la République et de nos autorités hiérarchiques de l'inspection générale de diviser les corps des inspecteurs en octroyant la prime pour fonction spéciale juste aux inspecteurs province Kinshasa et Congo central tout en sacrifiant les autres. Face à cette mesure discriminatoire qui n'est rien d'autre qu'une pire injustice, nous, inspecteurs et agents de l'IPP Tchopo 1, décrétons la grève sèche en datée de ce lundi 30 septembre 2024. École sans inspecteur et c'est jusqu'au paiement de notre prime pour fonction spéciale avec effet rétroactif. Demandons au chef d'établissement de ne recevoir aucun inspecteur pendant cette période de grève.
D'une grève à une autre, les enseignants du secteur public du territoire du Congo dans la province du Tanganyika décident de reprendre la grève dès ce lundi. Annonce faite ce dimanche à Kongolo par la synergie syndicale des enseignants à l'issue de leur assemblée générale. Les enseignants revendiquent notamment un salaire mensuel de $500. Signalons que la grève a été suspendue il y a 2 semaines à Kongolo avant que les enseignants ne décident encore de la déclencher. Nous l'avons dit dans les titres, comprendre le fonctionnement des juridictions civiles et militaires, c'est l'objectif de la journée porte ouverte qui se tient ce lundi au palais de justice à Bunia, en Ituri. C'est dans le cadre du projet d'appui à la réforme de la justice exécuté par l'ONG Avocats sans frontières. Marcel Kizabiamongo signe son reportage.
C'est par cette sonnette qui retrace les dysfonctionnements et le monnayage dans les secteurs de la justice que cette journée porte ouverte a commencé. Les présidents des juridictions civiles et militaires, chacun à son tour, a expliqué les fonctionnements des cours et tribunaux devant plusieurs centaines de curieux. Selon les organisateurs, l'objectif de cette opération qui se veut pédagogique est de familiariser les justiciables avec la justice. Initiative saluée par la population venue nombreuse et qui espère à un accès plus facile à la justice. Didonné Lokombe est venu des Biakato dans les territoires de Mambasa.
Et c'est une activité qui a beaucoup contribué par rapport à mon rapport sur le plan judiciaire et je souhaiterais que ce soit habituel.
Johnny Lobo, le coordonnateur du projet Accès à la justice au sein de l'ONG Avocats sans frontières, dit espérer que les barrières vont désormais tomber pour permettre à la population de bénéficier des bons services de la justice.
Que les gens considèrent la justice comme tout autre service auquel, en cas de problème, on doit faire recours et qu'on comprenne comment ça fonctionne.
Des dépliants sur les différents frais des justices à payer sont mis à la disposition de la population. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale poursuit son séjour à Kisangani. C'est lundi, Guy Kabombo Mwadiamvita visite le camp lieutenant général Lucien Bauma, un centre de formation de commando. Mais hier, il a effectué une visite au camp d'instruction militaire Lukusa, à la rive gauche du fleuve Congo. Guy Kabombo a fait la ronde du centre pour se rendre compte des conditions de vie et d'apprentissage des jeunes recrues. Rappelons qu'à son arrivée samedi à l'aéroport de Bangoka, il avait déclaré être venu s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette entité sur le plan strictement militaire. À cet effet, il a eu des séances de travail avec le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Mbangu, ainsi que des officiers et sous-officiers de cette juridiction. Parlons des tractations dans la composition des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. L'UDPS, parti cher au président de la République, revendique la présidence de la majorité des bureaux de ces commissions au regard de son poids politique. L'ECOFIN, la PAGE, la commission défense et sécurité ainsi que la commission de suivi et évaluation sont celles sur lesquelles le parti de Félix Tshisekedi ne compte pas transiger malgré l'opposition de ses partenaires. Pour rechercher la paix et la cohésion au sein de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a échangé vendredi avec la délégation de l'UDPS alors que les députés enregistrent du retard car 15 jours après l'ouverture de la session, le calendrier n'est toujours pas publié. Michel Kifindangoy.
Au cours de ces échanges, le groupe parlementaire UDPS et Mosaïque prend position pour la constitution des commissions permanentes et sur la répartition des responsabilités au niveau des bureaux de ces commissions. Pour les députés Gilbert Kankondé, ces échanges avec le bureau visent à créer un climat d'harmonie et de cohésion au sein de l'Assemblée nationale.
L'UDPS a présenté au président de l'Assemblée nationale son approche à la répartition de ces commissions, la composition des bureaux de chaque commission.
L'UDPS revendique concrètement, si pas la présidence de toutes les 10 commissions permanentes, tout au moins la tête des bureaux de 7 de ces commissions, ce que n'approuvent pas les autres forces représentées à l'Assemblée nationale. Malheureusement, cette guéguerre occasionne une léthargie au niveau de l'Assemblée nationale. Tenez, alors qu'il ne dispose que de 40 jours pour examiner le budget 2025, les députés nationaux viennent de perdre 15 jours sans même la publication du calendrier de la session. Voilà pourquoi le président Vital Kamerhe recommande à tous l'amour et la confiance mutuelle, car selon lui, le président de la République attend plutôt du Parlement des résultats qui impacteront positivement le social des Congolais.
Merci à vous, Michel Kifinda Ngoy, pour toutes ces précisions. Et au Cassé Oriental, clôture samedi à Mbujimayi de la série d'échanges sur les leçons apprises du processus électoral de 2023. Ces travaux de 3 jours ont été organisés par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES en sigle. Plusieurs couches de la population ont à cet effet formulé des recommandations au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans le but d'améliorer le processus électoral de 2028. Esther Ndalafina pour le compte rendu.
Au cours de ces échanges, Maître Evelyne Mulemangabo Nebintu, chargée du genre et inclusion à AIFES, a demandé aux participants de partager les leçons apprises lors du processus électoral 2023.
L'objectif ultime est de faciliter la réflexion, la contribution et la participation active des parties prenantes dans le processus électoral en RDC, en tirant des leçons du processus électoral 2023.
Le peuple autochtone, les personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme ont formulé des recommandations susceptibles d'améliorer le processus électoral 2028. Lambert Beloko est président du peuple autochtone.
On a recommandé à CENI de nous coopter comme les chefs coutumiers, comme nous sommes les premiers occupants du Congo.
Les personnes vivant avec handicap ont également formulé leurs recommandations. Philomène Massengo.
La CENI puisse aussi vérifier le bâtiment. Quand nous nous trouvons dans des escaliers, ça nous dérange.
Georges Kalunga a parlé au nom des personnes atteintes d'albinisme.
Nous sollicitons l'agrandissement des lettres sur les différentes fiches afin de nous permettre d'identifier ce qui est écrit. Deuxièmement, que la CENI instruise ses agents pour qu'une fois la personne atteinte d'albinisme, qu'il puisse les faire rentrer parce que le soleil nous cause des maladies sur notre peau.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Cette information en plus bref, ouverture ce lundi à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu de la session ordinaire de septembre. C'est une session budgétaire. Toutefois, les députés procéderont à la présentation des rapports des différentes commissions, dont celle portant sur la spoliation des biens et parcelles de l'État. Dans le même contexte, le mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire et gouvernementale demande aux députés provinciaux du Sud-Kivu de doter la province d'un budget rationnel qui pourra répondre aux multiples besoins en province. Ces besoins comprennent le domaine de la salubrité, des infrastructures routières et d'autres besoins de base. Revenons un instant au Maniema. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets à impact visible pour le 100 jours du gouverneur, le gouverneur des provinces, Moussa Kabankoubi Moïse, a lancé samedi les travaux de réhabilitation du tronçon Binambito-Makala-Kailo. Ces travaux sont les résultats de la taxe conventionnelle initiée récemment par le chef de l'exécutif provincial. Vu l'état piteux des routes du Maniema, la population salue ces travaux qui seront exécutés par méthode IMO par le Fonds provincial pour l'aménagement des routes, FOPAR Maniema en sigle. Florence Kizalunga, reportage.
Aucune saison n'est favorable pour la route Kailo. Tous les usagers s'en plaignent. La population salue le début de ces travaux.
Nous, la population de Kailo, nous engageons à accompagner cette initiative donnée par le gouverneur de la province jusqu'à son aboutissement pour que nous ayons de bonnes routes.
Les gouverneurs demandent l'engagement et l'accompagnement de tout le monde pour la réussite totale de ces projets. Moussa Kabankoubi.
Donc, le message, c'est d'encourager tout le monde, surtout les miniers, les cimentiers, tous ceux qui vendent la cigarette et tout le monde pour participer dans ces projets de reconstruction de notre province. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres.
Les conseillers principaux du chef de l'État en charge des infrastructures garantissent les maniémiens, David Moukeba.
Il va sans dire qu'après ici, nous allons dresser un rapport à Kinshasa, à son exemple, monsieur le président public, qui entrevoit, n'est-ce pas, asphalter toutes les routes nationales. Et la RN31 étant aussi une route nationale, ne va pas rester en marge de ce programme. Nous allons l'inscrire. Et nous continuons à le dire très haut que nous saluons la bravoure et le dynamisme de son exemple, monsieur le gouverneur.
Signalons que ces travaux prendront, sauf imprévu, 3 mois d'après l'ingénieur. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Étonnante campagne présidentielle en Tunisie. Seulement 3 candidats ont été autorisés, parmi lesquels l'homme d'affaires emprisonné Ayachi Zamel, l'ex-député Zouaïr Magzaou et le président sortant qui ne va que très peu à la rencontre des Tunisiens pour présenter sa vision pour un nouveau mandat. À la place de Kaïs Saïd, ce sont ses sympathisants qui occupent l'espace laissé libre.
L'invité.
C'est le rédacteur en chef de la Fondation Hirondelle, Christian Mulumba Kalumba. Cette fondation privée suisse vient d'organiser à Bunyanituri une formation des journalistes et acteurs de la société civile sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Pourquoi cette formation? Quels peuvent être les dangers de la désinformation, surtout dans une zone sensible comme celle de l'Ituri? Christian Mulumba Kalumba s'entretient avec Ezekiel Muzalia. Monsieur Christian Mulumba, bonjour.
Bonjour, monsieur Ezekiel.
Pour quelles raisons vous avez organisé cette sensibilisation à l'éducation aux médias en Ituri?
Ben écoute, dans les mots sensibilisation, on essaie de faire passer un message le plus large possible au public. Mais comme on ne peut pas atteindre tout le monde au même moment, nous nous sommes tournés vers les leaders communautaires de la province de l'Ituri, plus précisément ceux qui vivent à Bunia, pour une session d'éducation aux médias. Aujourd'hui, on constate que la plupart des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, ce sont des messages de haine en République démocratique du Congo. La désinformation, la mésinformation, l'a remplacé la bonne information, celle du journaliste qui est allé sur le terrain, qui a collecté, qui a traité, qui a diffusé l'information. Aujourd'hui, on diffuse du grand n'importe quoi, et la dangerosité des messages qui sont diffusés, c'est qu'elles peuvent amener à voir certaines personnes mettre le feu à la maison. C'est pour ça que nous avons tenu à échanger sur cette session sur l'éducation aux médias.
Quels peuvent être, selon vous, les dangers de la désinformation, surtout dans une province où la situation sécuritaire et la tension communautaire demeurent encore préoccupantes?
Mais on a vu, ça veut dire que la plupart de ceux qui partagent ces mauvaises informations, ces mauvaises rumeurs, c'est des personnes qui ont des intentions derrière, très souvent d'ailleurs. Et quand on se retrouve dans une zone comme celle de la province de l'Ituri, où il y a plusieurs groupes armés, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont choisi leur camp. Quand ils partagent ce genre d'informations, ben écoute, c'est pour faire peur, pour faire fuir la population de foi. Et c'est pour ça que je parle de mettre le feu derrière, et la conséquence, on l'a vu à plusieurs reprises, à travers les mauvaises informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, ça crée du désarroi au sein de la population, et à travers la session de formation que nous avons eue sur l'éducation aux médias, à travers les leaders communautaires, nous nous sommes dit au niveau de la Fondation Hirondelle, et surtout au niveau de sa structure au pays qui est Studio Hirondelle, c'est que eux, à leur tour, aillent sur le terrain. Ils sont en contact des jeunes, ils sont en contact de la population, qui puissent se partager et mettre en garde, carrément, ceux qui aiment et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, de leur dire, faites attention avant de partager un message, il faut bien le lire, il faut bien comprendre le message.
Les professionnels des médias ont été sensibilisés aux dangers de la désinformation. Alors, qu'est-ce que vous attendez désormais d'eux dans l'exercice de leur métier et pour les retours de la paix dans cette province?
Il faudra déjà que les journalistes réoccupent le terrain, parce que nous avons l'impression que les journalistes ont cédé la place à ceux qui aujourd'hui écument les réseaux sociaux, que les journalistes reprennent leur place, qu'ils fassent leur travail, qu'ils aillent collecter l'information, qu'ils traitent cette information avant de la diffuser.
Monsieur Christian Mulumba, pensez-vous qu'on peut efficacement lutter contre la désinformation quand on connaît le niveau élevé du communautarisme dans une province comme l'Ituri, où les journalistes sont constamment en face d'un dilemme, parce que ils sont issus de certaines communautés et tout. Ils doivent traiter peut-être l'information qui indexe leur communauté.
Mais qu'est-ce qu'on nous demande à nous journalistes de faire? C'est d'être professionnels. Et quand on est professionnel, ça veut dire qu'on est l'église au milieu du village. On ne choisit pas son camp en se disant que moi j'appartiens à cette communauté. Parce que si vous diffusez une information pour stigmatiser l'autre communauté, mais qu'est-ce que vous amenez à l'arrivée? Vous amenez à ce que ces gens se battent entre eux. On se retrouve avec des tueries sur le terrain, tout simplement parce que le journaliste a diffusé, disons, une mauvaise information. Le journaliste doit rester l'église au milieu du village, sachant que quand lui, il parle, il est écouté par les communautés, pas seulement par sa communauté, mais par les différentes communautés qui vivent, qui sont obligées de vivre ensemble dans la même province.
Christian Mulumba, merci.
Je vous dis merci aussi.
Le rédacteur en chef de la Fondation Hirondelle, Christian Mulumba Kalumba, était avec Ezekiel Mozalia à Bunyani Touri. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Dieudonné Nyangasawa Nyangasa a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci pour votre attention.